Alors je continue la lecture de l'évangile de Jean et j'en arrive au chapitre 17, un chapitre assez célèbre dans cet évangile. On va commencer par le lire en entier. Donc Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêts-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre, pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver de l'esprit du mal. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. La vérité, c'est ta parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, et qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Depuis l'époque d'un certain David Chytraeus, qui a vécu de 1530 à 1600, donc à peu près l'époque de la Réforme, ce chapitre est couramment désigné comme la prière sacerdotale de Jésus. Peu de prières de Jésus nous sont rapportées dans les évangiles. Celles-ci occupent tout un chapitre de l'évangile de Jean. Ce terme de prière sacerdotale signifie que les théologiens ont vu dans cette prière notre Seigneur remplir ses fonctions de souverain sacrificateur, pour parler comme l'Ancien Testament, ou de prêtre, pour parler comme le Nouveau, auprès du Père et en faveur de ses enfants, les chrétiens. Il fait allusion à Hébreux 4, verset 14, on a beaucoup lu dans l'Épître aux Hébreux ce matin, Hébreux 4, verset 14, « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. » Dans d'autres versions, il est dit « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. » C'est la même chose. Donc au verset 1, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. » À plusieurs reprises dans cet évangile, Jésus avait dit « Mon heure n'est pas encore venue. » Par exemple, il l'a dit à sa mère, Marie, lorsqu'elle l'a sollicité pour résoudre une difficulté lors des noces de Cana. Il dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Mais lorsque des païens se sont joints aux Juifs venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, certainement la fête de Pâques, et que ces païens demandent à rencontrer Jésus, ils déclarent « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. » Cette heure, c'est celle de l'accomplissement suprême de la mission que le Père lui avait donnée, opérer la purification des péchés par le sacrifice expiatoire de sa vie. Et, paradoxalement, le supplice infamant de Jésus, cette heure, est celle où sa gloire sera suprêmement manifestée, bien plus encore que dans ses œuvres miraculeuses de guérison, voire même de résurrection de mort. Mais cette gloire, Jésus la demande à son Père. Il se tourne vers la toute-puissance de Dieu pour transformer la victoire qu'il a déjà proclamée au chapitre précédent, au verset 16, verset 33. Rappelez-vous, il avait déclaré à ses disciples « Moi, j'ai vaincu le monde. » Et il demande au Père que sa mort le glorifie en retour. Donc Jésus veut que la puissance du Père transforme cette victoire. Verset 2. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. En Matthieu 28, verset 18, ce verset bien connu, Jésus proclame à ses disciples, juste avant de remonter au ciel, « Toute puissance m'a été donnée, et cela en rapport avec l'ordre d'instruire et de baptiser toutes les nations. » Cette autorité et la puissance qui l'accompagne ont été données au Fils avant la création du monde sur toute chair. Ça, c'est la traduction littérale qui est traduite en général sur l'humanité entière. Et cela allait s'accomplir dans le temps par l'incarnation du Fils et son obéissance qui allait conduire à son humiliation, sa mort, sa résurrection et son élévation. Et le but de ce don d'autorité fait au Fils, c'est qu'il puisse accorder la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. On touche là au mystère de la souveraineté et de la préscience de Dieu qui choisit ceux qui seront rachetés et répondront aux sollicitations de sa grâce prévenante. Mais il condamne également en toute justice ceux qui rejettent sa miséricorde et qui demeurent sous le coup de sa colère. Verset 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Fils, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie qui ne finit jamais, mais une vie remplie par la connaissance du Père et de son Fils. Le Fils nous a révélé le cœur du Père dès cette terre, mais nous le connaîtrons parfaitement en sa présence directe dans le cadre des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera pour l'éternité. La mention dans ce verset de « et celui et de celui que tu as envoyé Jésus-Christ, a semblé aux yeux des Ariens et des Sociniens placer Jésus à côté et en dehors du seul vrai Dieu. Alors, l'hérésie arienne, les Ariens, du nom d'Arius, un évêque d'Alexandrie au IIIe siècle, a gagné une grande partie de la chrétienté et a dû être réfutée et condamnée par des conciles de l'Église qui ont été amenés ainsi à établir fermement la doctrine de la Trinité divine, doctrine que nous reconnaissons pleinement. Cette même hérésie est réapparue à divers moments de l'histoire de l'Église. Par exemple, avec un certain Fausto Sozzini, donc un Italien, à l'époque de la Réforme, et qui était à l'origine d'un mouvement qu'on a appelé les Sociniens, un mouvement unitarien, anti-trinitaire. Donc un mouvement qui ne reconnaissait que le Dieu le Père, et pas Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Le mouvement des témoins de Jéhovah en est un avatar plus récent. Les versets 4 et 5. « J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêts-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant l'origine du monde. » Toute la vie de Jésus a été glorieuse, de sa naissance miraculeuse à sa mort sur la croix. Ses disciples ont vu sa gloire dans les œuvres de puissance qu'il a accomplies de la part du Père. Et ils la contempleront encore après sa résurrection, lors de ses apparitions, par exemple. C'est cette contemplation de sa gloire qui les pousseront à témoigner avec la puissance du Saint-Esprit, par exemple par le discours de Pierre en acte 2, qui amènera à plus de 3000 conversions dans la ville de Jérusalem. Alors Jésus réclame maintenant la gloire qu'il avait auprès de son Père avant les origines du monde. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul évoque ce dépouillement volontaire du Fils de sa gloire lors de son incarnation, qui l'a conduit à sa suprême humiliation sur la croix, mais aussi le résultat glorieux de ce fait. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout homme sera contraint de s'agenouiller devant sa majesté. Ses élus dans un hommage plein de reconnaissance et d'adoration, et aussi ceux qui n'ont pas cru en lui. Ces derniers devront se rendre à l'évidence qu'ils ont méprisé le Seigneur de gloire. Versets 6 à 8. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus résume ainsi le résultat de sa mission auprès de ses disciples. Parmi tous ceux qui le suivaient et profitaient de son enseignement, il y a eu beaucoup de déchets, peut-on dire. Par exemple, en Jean 6, 60, nous lisons « Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter ?» Au verset 66, « À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. » Verset 67, « Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Verset 68, « Mais Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On voit que bien que les 11 aient eu beaucoup de peine à comprendre toutes les paroles de Jésus, ils avaient accepté par la foi l'essentiel. Et le Saint-Esprit allait faire le reste à partir de la Pentecôte. À la différence de la masse du peuple juif qui a globalement rejeté la personne de Jésus et son enseignement, ils ont cru, eux, que Jésus était bien l'envoyé du Père et qu'il avait les paroles de la vie éternelle, comme l'a formulé Pierre. Ce sont ceux qui étaient au Père et qu'il a donné à Jésus. Bien sûr, il y avait aussi tous ceux qui, sans être de ses disciples, ont cru en lui, et ils sont nombreux. Ses intimes, comme la famille de Béthanie, Marie, Marthe et Lazare, et tous ceux qui ont été au bénéfice de ses actes de puissance et de miséricorde. Versets 9 à 12. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Donc Jésus les a gardés et protégés, tant qu'il était physiquement avec eux. Mais il va partir. Il les confie à la garde du Père. Nul doute que cette promesse sera exaucée. Eux, ils vont rester dans le monde, ce qui signifie qu'ils devront en affronter l'hostilité comme la séduction. Mais, à la demande de Jésus, le Père fera en sorte qu'ils persévèrent jusqu'au bout. Et Jésus dit, traduit plus littéralement, « Je suis glorifié en eux ». Le verbe utilisé dans l'original est au passif et à un temps qui s'appelle le parfait, un temps qui exprime un état antérieur qui se prolonge dans le présent et même dans le futur. C'est la raison pour laquelle le semeur a traduit « Ma gloire rayonne au présent en eux ». C'est bien le sens en effet de ce verset. Vous vous rendez compte, notre Seigneur a été glorifié en nous et continue à l'être par le témoignage de notre vie et de nos paroles. Quelle merveille, mais aussi quelle responsabilité. Jésus mentionne l'exception de Judas, qu'il désigne littéralement comme le fils de perdition. C'est exactement le même terme que Paul utilise en 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous égare d'aucune façon, car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, littéralement le fils de perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, etc. Dans ce texte, Paul prédit la venue d'un personnage d'origine diabolique qui, semble-t-il, apparaîtra sur la scène terrestre à la fin des temps et que Jean, dans sa première épître, désigne comme l'Antichrist. Judas, qui faisait pourtant partie des disciples choisis par Jésus, était animé, hélas, du même esprit, l'esprit de l'Antichrist, qui le conduira à sa perte, tout comme il conduira à sa perte l'Antichrist des temps de la fin. Bien évidemment, Jésus n'ignorait rien de cela lorsqu'il l'a choisi. Il a été en contact pendant 3 ans avec celui qui a les paroles de la vie éternelle. Mais il a succombé à la séduction de Satan, comme l'Écriture le prévoyait, mais pour autant, sa responsabilité demeure entière. Versets 13 à 16. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin ou du mal. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même je ne lui appartiens pas. D'après cette parole de Jésus, le monde, le système monde, et les chrétiens sont 2 domaines incompatibles. Mais pour comprendre cette parole, il faut définir ce qu'est le monde aux yeux de Jésus. C'est un système pervers qui renie son Créateur, lui tourne le dos et lui trouve des substituts des substituts parfaitement vains, comme les diverses religions, ou l'athéisme, ou toutes sortes de choses. C'est le système qui rejette son Créateur malgré la révélation qu'il a donnée de lui-même de diverses manières. Les choses créées, la parole révélée, le témoignage intime de la conscience dans tout homme. Être l'objet de la haine du monde n'est pas vraiment un sujet de joie. Et pourtant, Jésus a demandé à son Père que les siens expérimentent sa propre joie, qui est une joie parfaite, sans aucune commune mesure, avec les joies ou plaisirs que ce monde peut offrir, mais qui finalement sont limités et décevants. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal ou du malin. Au cours de l'histoire de la chrétienté, la tentation a été grande, elle est encore, de se retirer du monde pour échapper à ses séductions. C'est ce qui a été à l'origine des ermites, par exemple. Les plus sincères ont dû reconnaître que même dans leur retraite, ils ont dû constater qu'ils ne pouvaient totalement échapper à l'influence du malin, car le péché était en réalité dans leur cœur. Ils n'ont fait que redécouvrir la parole de Jésus qui nous est rapportée en Matthieu 15, verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes, etc. D'autre part, se retirer du monde serait se soustraire à la mission que Jésus a donnée aux siens de témoigner de la bonne nouvelle dans le monde. Versets 17 à 19. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Le mot traduit dans la Bible du Semeur, là par consacré, peut être aussi traduit par sanctifié. Vous avez peut-être ce mot-là dans vos Bibles, dans vos traductions. Et c'est peut-être la traduction, oui, plus certainement. Hein. Jésus, se sanctifiant lui-même pour les siens, le mot ne peut revêtir ici le sens de se séparer du mal. Car il est évident que Jésus a toujours été totalement séparé du mal. La traduction consacrée, utilisée par certaines versions, et notamment par la Bible du Semeur, me paraît donc être la bonne. En effet, le verbe agiazo signifie mettre à part ou dédier une personne ou une chose pour le service du Seigneur. L'idée n'est pas celle de purification du péché, elle va être réalisée de façon imminente, mais de consécration au service de Dieu. On voit donc que Jésus demande à son Père de consacrer les siens à son service, tout comme lui-même a consacré sa personne au Père pour opérer le salut, et qu'il continue à le faire pour le témoignage et la propagation de l'Évangile. Et quel est le moyen de cette consécration ? Ta parole, parce qu'elle est la vérité. Nous voyons donc que le moyen de nous consacrer au service que le Seigneur attend de nous est de bien connaître et surtout de vivre sa parole. Il n'y a rien de mystique dans cette consécration, mais il nous faut utiliser le moyen indiqué par Jésus lui-même, sa parole. Nous avons donc vu que Jésus a prié pour que le Père fasse éclater sa gloire et que lui-même soit glorifié par l'œuvre de la rédemption qu'il est sur le point d'accomplir. Il a prié ensuite pour les siens, afin que le Père les garde après son départ et les consacre à son service. Et maintenant, c'est la fin du chapitre, il va prier pour ceux qui seront arrachés au monde par leur témoignage sous la direction du Saint-Esprit. Ce sont les versets 20 à 23. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi. Qu'il soit un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et que si le monde puisse, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Ainsi se constitue le peuple de Dieu, un seul peuple. Et ainsi se réalise le désir de Dieu exprimé à de multiples reprises dans l'Ancien Testament, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et ce peuple nouveau ne se limitera pas à Israël, mais à tous ceux qui, d'entre les païens, répondront aux sollicitations de la grâce prévenante de Dieu lorsqu'ils entendront le témoignage de ceux qui sont déjà ses disciples. Cette unité des rachetés permettra au monde de reconnaître que c'est bien Dieu qui a envoyé Jésus et qu'il aime les siens du même amour qu'il aime son Fils. C'est le but de cette rédaction de Jean qu'il dévoile à la fin de son évangile, au chapitre 20, verset 30. Jean écrit « Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » Les versets 24 à 26. « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que je sois moi-même en eux. » Au chapitre 14, Jésus a dit à ses disciples qu'il allait leur préparer une place dans la maison du Père, pour qu'ils soient toujours avec lui. Cette habitation éternelle s'accompagnera donc de la contemplation de sa gloire. Cette façon dont Jésus appelle le Père « Père juste » à la place de « Père saint » indique la justice rétributive de Dieu, qui fait la différence entre le monde et les siens. Le monde ne t'a pas connu et reste donc sous la juste condamnation que mérite son péché et son rejet du seul moyen de salut donné aux hommes. À l'inverse, des hommes et des femmes ont compris et surtout cru que c'est Dieu qui a envoyé Jésus pour leur salut. Eux sont justifiés de la justice que Jésus leur a acquise à la croix. De plus, ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre de Jésus sont les objets d'un amour identique à celui dont le Père aime le Fils. C'est ainsi que par pure grâce, nous sommes véritablement un avec le Père et le Fils. Certes, de telles affirmations de l'Écriture nous dépassent, mais nous les acceptons avec foi et nous nous inclinons dans l'adoration. Jean 17, donc, la prière dite sacerdotale de Jésus, c'est comme ça qu'elle est connue, notamment dans le monde évangélique et dans le monde protestant. Donc ce chapitre 17 de l'évangile de Jean a été appelé par ce fameux David Chytrios, la prière sacerdotale de Jésus, terme employé encore de nos jours. Ce monsieur était un théologien luthérien, à l'époque de la Réforme, professeur d'université, un des théologiens les plus influents de la fin du XVIe siècle. Donc on a lu que l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. À la fois, cette gloire, la gloire qu'il possédait avant son incarnation comme Fils éternel de Dieu, et une gloire supplémentaire, si on peut dire, acquise par le succès de sa mission. Avoir révélé le cœur du Père aux élus, avoir accompli la purification des péchés, et avoir ainsi offert le salut à tous ceux qui se confient en lui. On a lu que Jésus a reçu du Père autorité sur l'humanité tout entière, que cette dernière en soit consciente ou non. Le Père a conféré au Fils cette autorité de toute éternité pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui a donné. La vie éternelle, on l'a vu, n'est pas seulement une vie sans fin, qui ne finit jamais. C'est une vie remplie de la connaissance du Père et de son Fils, notre Seigneur. Elle commence dès cette terre, lors de notre conversion, et cette connaissance ne cessera d'augmenter. J'ai cité là une parole de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13. « Maintenant, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai à fond. » Le Fils s'est volontairement dépouillé de sa gloire lors de l'incarnation. Mais Dieu la lui a redonnée, augmentée de celle qu'il a acquise par sa mort sur la croix. Et là, donc, j'ai cité ce passage de l'Épître aux Éphésiens. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Répétons ensemble « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Le Père et le Fils ont décidé de confier à des êtres faillibles tels que nous le soin d'être leurs témoins et de faire rayonner autour de nous leur gloire. L'unité des chrétiens est un des rayons de cette gloire. Quelle responsabilité ! Jésus confie les siens à la garde de son Père après son départ pour le ciel. Il s'engage à les préserver, du monde jusqu'au salut final. C'est une doctrine fondamentale qui est la doctrine de la persévérance des saints. Jésus ne demande pas au Père de nous retirer du monde, mais de nous garder du malin ou du mal, suivant les traductions. Et il prie pour ceux qui passeront du monde au royaume de Dieu par le témoignage et la prédication des saints. C'est là notre grande mission. Les siens bénéficient d'un amour identique à celui qui règne entre le Père et le Fils. Une telle qualité d'amour est donc assez accessible à toute communauté chrétienne et donc à notre Église à Villefranche. Que le Seigneur vous bénisse.